L'émission que vous allez écouter est une rediffusion.
Si je vous dis documentaire, vous penserez sans doute à ceux que l'on voit à la télévision, sur des chaînes comme France 5, Arte, la BBC ou encore National Geographic. Mais le documentaire existe aussi, et depuis bien longtemps, à la radio. C'est une façon de raconter le réel par la force du son, des témoignages, des situations, des ambiances sonores. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. Nous diffusons cette émission alors que se tient à Brest, en Bretagne, dans l'extrême nord-ouest de la France, la 20e édition du festival Longueur d'onde, qui se présente comme le festival de la radio et de l'écoute. Aussi, pendant 20 minutes à la radio, et plus d'une heure si vous faites le choix d'écouter cette émission en podcast, je vous propose un grand entretien, une conversation avec une grande productrice et documentariste sonore.
RFI.
Née en 1952, Irène Omelianenko a effectué la quasi-intégralité de sa vie professionnelle au sein du groupe Radio France, à France Culture. Elle est aussi cofondatrice de l'ADOR, l'Association pour le développement du documentaire radiophonique. J'ai reçu cette dame de radio sur la longueur. Je lui ai demandé de nous raconter son parcours avec des archives sonores sélectionnées pour nous. Et je lui ai demandé aussi de nous partager sa vision du documentaire radio d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour Irène Omelianenko.
Bonjour Steven.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre définition de ce que c'est le documentaire sonore, Irène Omelianenko ?
Alors, je vais vous donner une définition animale. Le documentaire sonore est un caméléon. Parce qu'en fait, le documentaire, il reflète très exactement ce que les gens en font. Donc, on peut avoir des documentaires qui sont... Alors, de toute façon, c'est en général quand même des sons... des paroles, des ambiances prélevées dans le réel. À partir du moment où on écrit un texte, ça s'appelle de la fiction. Donc le documentaire, c'est vraiment aller chercher dans la vie, dans le monde, des éléments avec lesquels on va composer et faire une proposition. Selon votre sensibilité, vous êtes journaliste, vous êtes poète, vous êtes sensible à la musique, vous êtes sensible au son. Eh bien tout ça, ça va vous donner des documentaires différents.
Irène Omelianenko, vous m'avez dit tout à l'heure que vous détestiez être interviewée. On va faire pire que ça, on va vous faire parler de vous. On va essayer de retracer un petit peu votre parcours pour que vous nous expliquiez justement d'où vous venez, ce que vous avez fait et aussi ce que vous laissez à toutes celles et ceux qui s'intéressent aux documentaires sonores. Vous avez fait des études de psycho et puis... À un moment, vous vous êtes dit que vous vouliez faire autre chose. Vous avez fait un travail de reconversion pour faire des audits financiers, des audits de personnel qui vous ont emmené, par un jeu de coïncidence, on va dire, à Libreville, au Gabon. On est en 1981 et c'est là que vous découvrez la radio. Expliquez-nous.
Oui, alors ça, c'est la Sophie Rade, Hervé Bourges en l'occurrence, et Martin Even qui m'avaient confié cette mission d'audit d'Africa numéro 1. Si elles m'écoutent ou si leurs enfants m'écoutent, il y avait à l'époque Blandine et Denise, qui étaient les deux stars d'Africa numéro 1, qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui m'ont fait découvrir littéralement ce monde de la radio. À l'époque, Omar Bongo, quand il faisait un discours, on n'y touchait pas. C'est-à-dire que s'il faisait un discours à la radio, qu'il toussait, qu'il surprenait, etc., on laissait tout comme ça parce qu'il y avait une peur du pouvoir, mais qui était terrible.
Donc on le gardait in extenso.
In extenso, sans nettoyer, vous savez, c'est pas beau le mot nettoyer, mais c'est quand même ce qu'on dit en radio quand on enlève les E,
les hésitations, tout cela.
Donc il y avait ce climat dans cette radio qui était comme ça. Et à côté de ça, il y avait des gens absolument, donc comme Blandine et Denise, qui accueillaient la vie, qui m'avaient permis d'aller à une cérémonie d'initiation pour des femmes. Et donc je m'étais retrouvée avec un agra pour la première fois de ma vie, aller enregistrer cette cérémonie d'initiation. Et d'un seul coup, là, avec ce nagra, avec cet enregistrement, il y a eu un mouvement de bascule. Et je me suis rendu compte que peut-être on peut écrire le monde autrement qu'avec des mots, que peut-être on peut l'écrire avec des sons, avec des paroles.
Irène Omelianenko, après cette audite donc, d'Africa numéro 1 à Libreville, au Gabon, vous rentrez en France et là... Il y a eu de la chance, c'est un téléphone qui un jour sonne chez vous. Le téléphone sonne et ce n'est pas vous qui êtes appelé, mais vous décrochez. Et au téléphone, il y a quelqu'un qui va compter dans votre vie, c'est Jean Couturier.
Oui, 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 vous êtes très très bien informé.
J'ai fait mon travail.
Jean Couturier voulait en fait faire travailler mon frère.
Parce que votre frère était comédien et il faisait des lectures à la radio.
Radio France, exactement. Et mon frère n'était pas là, je le lui ai dit. Et je lui ai dit, bah, rappelez plus tard. Le téléphone a ressonné quelques instants après en disant, oui, mais écoutez, pour cette émission, j'ai aussi besoin de voix féminine, votre voix irait bien. Oui, non, mais je ne suis pas comédienne non plus, j'ai re-raccroché. Et la troisième fois, il re-rappelle en disant, écoutez, non, franchement, j'ai envie d'avoir que ce soit vous qui lisiez ce texte.
Passons en 1982, moment auquel en France se créent des stations délocalisées de Radio France, les ancêtres de France Bleu. Et eh bien, différentes radios se créent, notamment un projet à Guéret, en Creuse. Et vous partez là-bas pour expérimenter quelque chose et pour faire de la radio au quotidien avec un principe eh bien, d'enregistrement le matin, de montage l'après-midi et le soir d'occuper une antenne radio en ayant une liberté presque totale pendant 2h30 où vous faites un travail de la matière plutôt que de la présentation. Là encore, ça a été très formateur pour vous.
Ouais, là, c'est mes débuts, hein. En fait, j'ai une petite formation à Radio France, comme tous ceux qui partaient dans cette création de radio délocalisée.
Il faut aussi resituer pour nos auditeurs non français. Nous sommes donc en 82. François Mitterrand a été élu président de la République en 1980. Il y a toute cette vague de la libération des ondes où eh bien, des radios fleurissent de partout.
Voilà. Et puis avec l'ambition qu'au lieu d'avoir une radio qui parle de Paris avec des Parisiens, on va se retrouver avec des radios incarnées dans des régions. Et c'est vrai que 2h30, j'avais 2h30 d'antenne tous les soirs, c'est colossal. J'avais appris vaguement à enregistrer, à faire le montage moi-même. Et donc, je pouvais le matin aller enregistrer des personnes qui me semblaient intéressantes. Mais j'ai fait aussi du pouce-disque pour remplir ces 2h30. Et puis, j'avais aussi Lina qui m'envoyait des... Vous savez,
c'est notre mal au trésor. L'Institut National de l'Audiovisuel, voilà,
oui.
qui vous envoyait des archives sonores.
Voilà, c'est un acronyme, INA, oui, Institut National de l'Audiovisuel, auquel vous pouviez demander des archives et vous pouviez raconter des histoires à partir de ces archives. Il y avait aussi les maisons de disques à l'époque. Je me souviens, Polydor nous accablait de tout ce qui sortait en matière de disques. Et avec tout ça, il fallait essayer de composer quelque chose. Donc, c'était une expérience... C'est un endroit où j'ai lié vraiment des amitiés durables avec des gens comme Catherine Simon, qui allait devenir grand reporter au journal Le Monde après, avec quelqu'un qui a travaillé chez vous, Anne-Marie Capomassio.
Qui travaille toujours dans ces murs, d'ailleurs.
Voilà, et bien Anne-Marie était chez les journalistes, parce qu'il y avait quand même la différence entre les personnes dans l'antenne et puis les journalistes de l'autre côté, mais Anne-Marie était là. Et ça a été vraiment un lieu, effectivement, d'expérience en tout genre. C'était un endroit de tous les possibles. Nous, on faisait venir des bandes de New York, par exemple. On diffusait Orchestral Manoeuvre in the Dark. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté dans cette radio de donner la parole aux Creusois, ce qui est important et ce que j'ai fait avec bonheur, mais aussi de s'ouvrir et de faire arriver le monde dans cette radio décentralisée. Et ça a été vraiment une expérience fondatrice pour moi. Ça a commencé comme ça, en tout cas.
Dans les années 1980-1990, le patron de France Culture s'appelait Jean-Marie Borzex et il vous a proposé à Jean Couturier vous-même de vous occuper d'une émission de fin de soirée, la nuit, encore une fois, clair de nuit, le samedi et le dimanche de minuit à 1h du matin. Et là, vous avez essayé de partir sur quelque chose d'autre ?
Ah ben alors complètement. Alors là, c'était autre territoire. Dans mon souvenir, le samedi, on avait des entretiens au long cours qu'on avait réalisés pendant la semaine, avec aussi bien des écrivains, des artistes, enfin des personnes qui nous intéressaient. Et puis le dimanche, on avait voulu ouvrir aux autres. Donc il y avait une émission qui s'appelait Tentative Première. Toute personne qui avait un projet de radio, qui n'y connaissait rien, mais qui avait une envie, on lui donnait les moyens de Radio France pour la réaliser sur 20 minutes. Et il y avait aussi une partie qui s'appelait Rémanence, où, en gros, j'allais voler des bandes magnétiques dans les poubelles de la radio, puisque à l'époque, on enregistrait donc avec des bandes magnétiques. Je récupérais ce dont la radio ne voulait pas, qui ne pouvait pas être présentable à la radio, et je faisais des collages. Ce qui me plaisait, c'est que je savais que je tombais sur les accidents de langage. On voit bien, il y a des hésitations,
des reprises,
des grands silences. Et tout ce qui se dit dans le langage... qui n'est pas du sens direct, mais tous ces accidents, moi, je trouve, racontent beaucoup du monde, racontent beaucoup de la vie. Donc, j'aimais ça. J'aimais aussi tous ces accidents qui sont vraiment l'inconscient qui s'exprime et celui qui écoute peut le percevoir. Ce que j'aimais aussi, c'est le côté absolument absurde de tout ça, où on a l'impression que les gens se répondent, mais pas du tout. Et c'est un peu comme dans la vie. On sait bien que dans la vie, vous parlez avec quelqu'un, il écoute, dit-on, 10% de ce que vous dites. parce qu'à chaque fois, il va le raccrocher à des expériences personnelles. Et souvent, vous parlez, il vous est arrivé un truc gravissime, vous êtes tombé dans la rue. Et en écho, vous allez avoir « Ah bah oui, moi aussi, je suis tombé il y a 3 ans ». C'est-à-dire que la personne ne vous écoute pas. Elle s'écoute elle-même. Et là, dans tous ces accidents de langage, c'était pour moi un rapport poétique aussi au monde. C'était être capable de saisir autre chose et d'amener les auditeurs vers d'autres mondes. Et solliciter l'imaginaire, travailler l'imaginaire avec des mots, avec des sons, ça, c'est quand même un des pouvoirs magiques de la radio et du son.
Irène Omelianenko, autre étape dans votre parcours, c'est l'émission Sur les docks, qui avait été créée par Pierre Chevalier, puis incarnée par Jean Lebrun, et ensuite vous, une émission dans laquelle vous avez essayé aussi de vous intéresser aux marges, de vous intéresser à des sujets qui n'intéressaient pas en règle générale à la radio, ou sur lesquels les journalistes se penchaient peut-être peu, les documentaristes aussi. Vous avez consacré par exemple 10 heures à la psychiatrie, vous avez beaucoup travaillé sur le thème de la prison, en allant beaucoup à Fresnes, vous êtes intéressé à la Shoah, ses rescapés, au juste, à la souffrance et son partage.
Oui, alors là, je pense que il est clair que quand je me retourne, je vois que j'ai quand même j'ai eu une espèce d'appétence pour les lieux de privation de liberté, pour les lieux de violence, pour les lieux qui interrogeaient nos souffrances. Parce que chez un être humain, quand on le rencontre, il y a toutes les apparences, toute la vie sociale, tout ce qui va bien. Puis il y a aussi toutes les souffrances, tout ce qu'il a pu vivre. Et tout ce qui est de l'ordre de la dérive, de la marge, est quelque chose, moi, qui me passionne. Alors je sais qu'il n'est pas étranger à ça, que j'avais un père qui était très dépressif et que cette souffrance que j'ai pu voir enfant, je sais que les êtres humains, même s'ils peuvent se comporter comme si tout allait bien, presque chacun d'entre nous a des souffrances, a des blessures intérieures avec lesquelles il se bat et puis qu'il arrive, à Dieu merci, la plupart du temps à combattre. Mais l'être humain est un être qui souffre. Et aller du côté de cette souffrance, aller aussi du côté des exclus, du côté des gens qu'on ne veut pas dont on ne veut pas parler, mais c'est pourtant un petit peu ça. J'ai travaillé par exemple à Fleury-Mérogis avec des infracteurs sexuels, des gens qui pratiquaient des violences sur des petits bébés, sur des jeunes enfants. On disait infracteurs sexuels, c'est le terme qui est utilisé par la loi, qui sont un petit peu la limite de ce que j'ai pu aller faire, ceci dit. Mais ces gens, si vous ne leur donnez pas la parole, on ne les entendra jamais. Mais je suis aussi allée dans des monastères. Je suis allée chez des Clarisses à Poligny, où on est aussi dans un lieu d'enfermement, mais un lieu d'enfermement lumineux, qui était assez extraordinaire. Donc c'est vrai que ça m'intéresse d'aller voir ce qui se passe derrière la mondanité, derrière les beaux écrans de notre monde magnifique, d'aller voir là où la vie se déroule autrement.
Et laisser la place à ces gens pour s'exprimer. Nous allons écouter un autre extrait ensemble, un extrait de l'émission Sur les docks qui date de 2012, un documentaire qui s'interroge sur la manière dont la justice française gère les familles des victimes de grandes catastrophes. Et il y avait notamment un volet sur le Jola. Le Jola, c'est donc un ferry qui reliait Ziguinchor à Dakar et qui a coulé, qui s'est retourné au large de la Gambie le 26 septembre 2002, faisant près de 2000 morts. Il y avait donc un numéro de Sur les docks où c'était Alain de Valpeau, d'ailleurs, s'il nous écoute peut-être, qui posait les questions et qui faisait entendre des parents de victimes.
Plonger sur le Jola, c'est plonger vers un sanctuaire?
Oui, oui. C'est un sanctuaire. Hein. Il y a encore près de 2000 personnes qui sont là-bas et qui nous attendent. C'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. C'est comme ça que moi je le ressens et j'espère que les autres, c'est comme ça qu'ils le ressentent.
Le naufrage du Jola, le drame d'après.
Un jour, une nuit, j'ai fait un rêve. Dans ma chambre, autour de moi, j'étais en train de dormir, tout d'un coup je me réveille et autour de moi, il y avait des milliers de personnes, il y avait beaucoup de gens qui tournaient autour de moi. Tous les regards étaient paisibles. Il me regardait. Et alors, je me suis réveillé, je voyais tous ces gens autour de moi. Je ne comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé vers la lumière pour voir mieux. Sinon, j'ai allumé la lampe et tout a disparu. Le lendemain, Je me réveille, je m'assois au bord de la mer, je prends ma tasse de thé, on m'apporte le journal. En réalité, c'était l'anniversaire du bateau Le Djola. Et ils étaient tous venus me voir. Et j'ai mis la relation de l'anniversaire avec la visite que j'ai eue. Et très souvent, ils sont avec moi, je les vois. Les scènes, je vois les visages. C'est comme ça.
Souvenons-nous du Djola, un extrait de l'émission Sur les docks de France Culture de 2012, donc on était 10 ans après le drame du Djola. Irène Omelianenko, ce que cela nous montre là aussi, c'est clairement ce qu'est le documentaire, à savoir raconter le réel, mais aussi digérer le réel, prendre le temps.
Oui, et ce temps, on avait pu le prendre, parce que prendre le temps, ça veut dire souvent avoir aussi l'argent pour prendre ce temps. Et cette émission donc, qui a été faite par Alain de Valpeau et Jean-Philippe Navarre, qui a eu le prix Italia, qui est quand même... c'est un peu comme le Festival de Cannes pour les documentaristes, hein, le prix Italia. Elle a pu être faite, cette émission, parce qu'Alain de Valpeau avait reçu la bourse de la SCAM, qui est la Société Civile des Auteurs Multimédia en France, qui a de l'argent et qui aide des auteurs pour des projets. Donc il avait eu de l'argent qui lui avait permis de retourner rencontrer les familles des victimes du Djola. Il était resté plus d'un mois. Et ensuite, Jean-Philippe Navarre l'avait retrouvé pour faire les enregistrements sur un temps beaucoup plus réduit. Mais cette série sur le Djola, elle a pu être faite parce qu'il y a eu ce luxe d'avoir du temps.
Irène Omelianenko, vous êtes dans la transmission, vous aussi. Vous êtes cofondatrice de l'ADOR, l'Association pour le développement du documentaire radiophonique. À votre avis, que doit défendre justement cette association? Vers quoi doit-elle tendre par les temps qui courent?
Alors, au départ, on avait deux ambitions. Constituer un patrimoine radiophonique, parce qu'il manque cruellement au monde sonore d'avoir... Il y a la cinémathèque, où est l'audiothèque du documentaire? Donc, il y avait ça, un patrimoine, et il y avait aussi développer l'écoute. Parce qu'en fait, écouter, ça s'apprend aussi. Écouter un documentaire, être capable de rester une heure à écouter un documentaire. Cette écoute, elle est importante, et cette écoute à plusieurs, elle est différente. Et donc, où ADOR va beaucoup en ce moment, c'est vraiment pour promouvoir des écoutes.
Donc le documentaire radiophonique, pour vous, est loin d'être mort. Au contraire, il a toujours devant lui.
Ah oui, non, il est... et puis surtout, c'est une clé de compréhension du monde, autrement, comme je le disais tout à l'heure, qui est essentielle. Moi, un pays sans documentaire ne serait pas un pays libre. Hein.
Ce sera le mot de la fin. Merci, Irène Omelianenko.
Merci à vous.
L'entretien que vous venez d'écouter est diffusé dans son intégralité, plus d'une heure, sur le podcast de l'Atelier des médias. Je remercie Eugénie Ducré de la Sonothèque de RFI qui a extrait pour nous les archives du si précieux fonds de l'INA. Et voilà, c'est la fin de l'Atelier des médias, une émission que vous pouvez écouter gratuitement dès le samedi sur la plateforme de podcast de votre choix. Je vous invite à préférer Pure Radio, l'application de RFI entièrement dédiée à nos contenus audio. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je réponds, je vous assure. Merci à Simon de Creuse qui a réalisé cette émission pour qu'elle soit la plus agréable possible pour vos oreilles sensibles. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.